Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des histoires qui laissent sans voix, celle de mon invité de ce matin en est une, l'histoire d'une petite fille plongée malgré elle dans une famille maltraitante, comme on dit. Une petite fille au cœur d'or et à la fois pure qui va, à force de multiples petits actes d'amour, survivre, comme l'indique le titre de son livre. Bien plus que cela, ai-je cependant envie de lui lancer l'histoire d'une femme, d'une grande dame, qui a su laisser passer dans ses ténèbres la vraie lumière. Roselyne Courreau, histoire d'une enfance sauvée, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec vous donc, Roselyne Courreau, vous êtes agrégée de lettres, enseignante à la retraite et auteure d'un ouvrage engagée dans le diocèse d'Albi depuis un certain nombre de temps, diocèse voisin, et auteure donc de Survivante, paru aux éditions Nouvelle Cité. Bonjour.
Bonjour Emmanuel Pella.
Merci de faire un détour par nos studios. Donc vous avez écrit ce petit livre, petit, pas si petit que ça, hein, ça fait quand même près de 150 pages, où avec plein de pudeur et de force, vous racontez donc votre itinéraire, itinéraire donc d'une enfance asphyxiée. Vous me disiez avant de préparer, quand on préparait l'émission, que c'était un peu le fil rouge d'une partie de votre vie, cette asphyxie. Avant qu'on se plonge dans cette histoire, Roselyne Courreau, aujourd'hui, l'impression que m'a fait votre livre, la mode est aujourd'hui est au témoignage, à dire et à raconter sa vie. On a l'impression que vous, ça n'est pas d'abord ce qui vous a motivé. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre?
Je l'ai écrit parce qu'on m'a proposé de l'écrire. Les éditions Nouvelle Cité me l'ont proposé. Ils avaient entendu un exposé plutôt théorique que j'avais fait sur la haine. Le loup habitera-t-il avec l'agneau, n'est-ce pas? J'ai tout de suite répondu oui à cette invitation à écrire, même si je ne savais pas si j'arriverais au bout, parce que j'ai expérimenté plusieurs fois que des petits passages de mon parcours ont aidé des personnes qui me confiaient leur détresse et auxquelles je pouvais partager un petit fait et ils se sentaient beaucoup mieux compris.
Voilà, donc c'est une histoire qui peut rejoindre, même si on n'a pas vécu exactement ce que vous avez vécu, ni forcément une enfance maltraitée, comme on va le voir. Mais on verra au fil de votre parcours que là où les ténèbres, la lumière a triomphé de ces ténèbres, c'est que aujourd'hui vous en faites justement un vrai lieu de fécondité. Allez, une autre question avant qu'on se plonge dans votre histoire. Vous aimez les fleurs, et ce depuis toute petite. J'aime les fleurs, je les aime vitalement. Pourquoi est-ce que vous aimez autant les fleurs?
J'aime les fleurs parce qu'elles sont belles. J'aime les fleurs parce qu'on peut les trouver partout, du moins jusqu'à présent. J'aime les fleurs parce qu'elles ont aéré mon enfance. Je donne un exemple. Lorsque je rentrais de l'école primaire en vélo, le brin de glycine qui dépassait d'un mur était pour moi lumineux.
Voilà, c'était une respiration. Alors on va se plonger dans votre récit. On va voir donc cette enfance si difficile. On va parler après de votre chemin de vie qui ne s'est pas arrêté là, évidemment, adolescence, âge adulte. Ce que vous avez vécu, les grandes et belles choses et les choses plus douloureuses. Et puis évidemment, tout au long de cette histoire, on évoquera votre vie de foi. Difficile de commencer autrement parce que c'est votre premier chapitre, ou presque. Petite enfance, mon premier souvenir, dites-vous. À 9h07, c'est peut-être difficile à entendre pour certains auditeurs, mais en même temps, c'est votre vie. Une scène, vraiment, enfin, c'est dur, hein, comme scène, évidemment, même à lire. Vous avez 5 ans, et vous dites, cette scène, en gros, se résume à deux mots, papa, arrête. Dites-nous pourquoi vous vous êtes invité à crier avec vos autres frères et sœurs, ce papa, arrête.
En pleine nuit, devant une porte fermée, la porte de la chambre de nos parents, Et papa hurle et maman pleure. Maman est frappée, on ne le voit pas, on le sait. Ce souvenir est imprimé dans ma tête et c'est l'un des très rares souvenirs de mes premières 8 années parce que ne se sont imprimés que les épisodes catastrophiques. Je pense que quand on vit des choses très très difficiles, heureusement l'esprit les efface, sinon on ne survivrait pas.
Alors, vos frères et sœurs ont quand même, je me suis dit, soit c'est l'inconscience de l'enfance, soit les enfants ont vraiment du cran, parce que c'est un de vos aînés, c'est ça, qui vous incite les uns les autres, en fait, à vous mettre derrière la porte et à hurler.
Alors, j'ai la chance d'avoir une sœur aînée de 8 ans plus âgée que moi. Mon frère n'a qu'un an de plus, et ensuite il y a la petite sœur. Cette sœur aînée a... depuis toujours pris cause pour la famille, et j'ai envie de dire, elle a presque été le pilier.
Elle a une force d'âme qui est voilà. Peu commune. Hein, c'est...
Voilà, et pratiquement, je pense par exemple à ma petite sœur, elle est presque comme la maman de substitution, même si bien entendu, nous avons eu notre maman bien abîmée, aussi intérieurement, mais nous avons quand même eu la chance d'avoir notre maman.
Voilà, donc là, elle vous incite à vous mettre derrière la porte, et puis tous ensemble, vous criez, au début vous dites « j'ai du mal à respirer », un murmure d'abord, puis elle jaillit et se coule alors dans la supplication commune « papa, arrête ». C'est donc une enfance, on va dire, sous le signe d'un malheur profond. Hein. Vous dites on va y venir, mais il y a tout un chapitre qui s'appelle « Ne pas peser ». Vous avez appris donc, pendant votre enfance quelque part à vivre comme asphyxié, hein. Ne rien demander, vivre avec le minimum, me débrouiller, c'est ainsi que j'ai grandi. Qu'il n'y ait pas de problème, que tout soit calme, telle est la responsabilité que j'ai endossée depuis mon plus jeune âge. Parce que votre papa donc, est très violent. Et votre papa, on le découvre au fil de votre livre, en fait, a une maladie psychiatrique.
Alors, cette maladie psychiatrique ne sera dite, ne sera dévoilée par un médecin que 2 ans avant sa mort. C'est-à-dire, pratiquement, il avait 80 ans. Nous n'avons jamais mis des mots de maladie sous ce que nous vivions depuis toujours. Quand on vit... une situation dramatique depuis toujours, j'ai envie de dire, elle est naturelle. En plus, il faut que vous vous replaciez 60 ans en arrière. La psychiatrie, on n'en parlait pas. Et surtout, je pense que l'aspect le plus profond du drame, c'est que ce drame n'est visible nulle part, même pas dans la famille proche. Tout est inséré uniquement dans le couple parental et le cercle des enfants.
D'ailleurs, vous dites tout se passe uniquement dans l'enceinte close de la famille, et même là, rien n'est verbalisé aux yeux de tous. Nous sommes une famille parfaite. Donc votre père, il avait donc une maladie psychiatrique. En fait, il n'était pas, un jaloux forcené. Il avait donc un syndrome de persécution rare, c'est ça ?
Ce qui a été diagnostiqué donc 2 ans avant sa mort, c'est un délire de persécution à un degré extrême. Et c'est sûr que
ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que dans ces cas-là, c'est un homme qui avait peur de tout et tout était une menace, y compris sa femme et ses enfants.
Et surtout. Surtout ce qui le touchait de plus près. Il lui fallait avoir la mainmise et la possession sur son épouse et cela engendrait dès la nuit de noces, je l'ai appris 50 ans plus tard, ce drame qui va s'amplifier puisque ce délire s'amplifie et son métier... Il était inspecteur des impôts, je pense, l'a conforté dans cette recherche de coupables et de fautes de la part de maman.
Alors, votre maman et votre papa, donc vous en parlez, enfin vous les présentez aussi au début de votre livre, on peut en dire quelques mots. Votre mère est issue d'une famille plutôt intellectuelle, vous dites ça, donc elle est institutrice, hein, c'est ça. Et votre papa, vous venez de présenter donc son itinéraire professionnel. Alors, ce chapitre, ne pas peser, qu'est-ce que vous pourriez en dire davantage? C'est donc tout un chapitre, ne pas peser. Quand vous me disiez aussi, en préparant l'émission, voilà, ma vie, c'est, pendant longtemps, ça a été de vivre asphyxié. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle petite fille avez-vous essayé d'être?
Vu la situation toujours très tendue dans le clan familial, ce qui m'a toujours importé, aussi loin que je me souvienne, c'était de ne pas paraître, de ne rien casser, de ne pas faire de bruit. Ne pas faire de bruit, c'était aussi l'objectif de nos parents. La discipline, il y a 50 ans, c'était, il fallait être très, très bien élevé. Mais ma sensibilité l'a poussé au maximum, cet aspect-là. Et j'ai presque envie de dire, je suis née et j'ai vécu sans bouger. Mais au point de ne rien demander, de ne pas dire quand j'avais mal ou quand j'avais froid ou quand j'avais faim, mais ce n'était pas, j'ai envie de dire, la faute de mes parents. C'était une responsabilité intérieure, ne pas rajouter à ce qui est difficile.
Une espèce de suradaptation, on va dire. Alors, il y a quelques beaux souvenirs, puisque des souvenirs aussi, vous dites que vous en avez peu. Vous l'avez dit au début de l'émission, hein, souvent quand on a des enfances traumatiques, souvent en tout cas, fort heureusement, ça arrive dans ces cas-là, la mémoire s'efface, même si on le verra au fur et à mesure de l'émission, vous, il y a quand même une mémoire inconsciente qui a fini un jour par revenir en effet boomerang. Vous évoquez votre première communion. Alors, vous vous en souvenez à cause d'une gifle. Parlez-nous de la gifle, mais surtout parlez-nous de cette phrase intérieure que vous avez entendue.
Alors, la première communion, je l'ai faite très jeune, puisque j'étais dans la même classe que mon frère qui a un an de plus. J'avais sauté une classe et donc j'ai fait la première communion en même temps que lui. Pour moi, c'était important. J'avais la chance d'être dans la paroisse Sainte-Thérèse à Montauban, que plusieurs auditeurs connaissent. Donc une paroisse moderne où on chantait du John Littleton. J'étais heureuse. Je suis montée comme les autres pour recevoir l'Eucharistie. Et quand je suis revenue à ma place, je souriais, j'étais heureuse. Quand je suis arrivée, papa m'a giflée.
Devant tout le monde, donc.
Voilà. Même si c'était à mon banc, donc. Ce qui s'est passé, normalement, j'aurais dû réagir ou pleurer ou être bouleversée. Ce qui a été incroyable, c'est que dans l'instant où j'ai reçu cette claque d'une force impressionnante, papa était quelqu'un d'imposant, au-dedans de moi, une parole a jailli, « Tu seras reine ». Je n'ai que ce souvenir, mais il est lumineux, je n'ai pas eu une seconde de révolte, je n'ai pas eu une seconde de pleurs, j'ai été émerveillée.
Tu seras reine. Il n'y a pas d'ombre d'un pourquoi cette gifle, dites-vous, pas eu le début d'une larme, comme si déjà par l'Eucharistie reçue, le Christ m'avait serré contre lui, en ami, en défenseur, en amoureux total. Survivre, paru aux éditions Nouvelle Cité, survivante, pardon, paru aux éditions Nouvelle Cité, c'est donc le titre de votre livre, avec cette phrase en sous-titre. On y reviendra, hein, parce que moi, j'aurais donné un autre titre à votre livre. Bref, avez-vous conscience que vous avez été torturé d'une manière rare? C'est ce que vous dira un jour un psychiatre. De tout ça va y jaillir une grande et belle lumière. On va y revenir, on fait une première pause et on vous retrouve.
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Roselyne Courreau, histoire d'une enfance sauvée, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec vous, Roselyne Courreau, vous êtes agrégée de lettres, enseignante à la retraite, engagée dans le diocèse d'Albi, et de ce depuis un certain nombre d'années, et donc auteur de cet ouvrage sur Vivante, sur apostrophe Vivante, paru aux éditions Nouvelle Cité. Alors on va continuer d'avancer dans votre vie, et maintenant c'est à l'adolescente que je m'adresse d'une certaine manière, en tout cas ce que vous donnez à lire dans votre livre. Vous avez fait une rencontre à un moment important d'un certain Francis. On a l'impression que c'est le premier visage de la bonté, j'allais dire de la bonté de Dieu. C'est le premier visage de la bonté qui semble surgir sur votre chemin. Qui était ce Francis? Pourquoi est-ce qu'il a autant compté?
Alors, il a compté parce qu'en fait, il va m'ouvrir indirectement la porte à la spiritualité qui m'anime, la spiritualité des Focolari, et auparavant, parce que c'est son visage en tant qu'aumônier dans l'aumônerie de l'enseignement public de Montauban, où se croisaient plusieurs aumôniers, qui en fait m'est revenu, sans que, bien entendu, je le cherche, au moment où j'allais sauter dans le Tarn à 13 ans.
Voilà, donc c'est un moment de grand désespoir. Cet homme, il a... vous êtes allé après le trouver, après que son visage ait surgi comme ça, et qu'il vous ait freiné dans cet acte. Et il vous a beaucoup écouté.
Oui, alors il m'avait frappé, d'autres auraient pu me frapper, mais c'est ce visage-là qui m'a empêché de sauter, parce que, vous savez, quand vous ne parlez pas, vous observez. Et il m'avait frappé par de petits gestes qu'il posait dans l'aumônerie où passaient beaucoup de jeunes, et je le voyais ranger la salle ou téléphoner à un collègue qui partait pour une réunion difficile. Et sûrement j'avais été sensible à ces tout petits actes discrets. Et quand je suis allée le trouver en ayant échappé au suicide, j'ai trouvé une porte ouverte et surtout une écoute entière. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je sais que je suis revenue plusieurs fois et que même s'il y avait des coups de fil, même s'il y avait beaucoup de courriers sur son bureau auxquels il devait répondre, il était comme s'il n'y avait que moi qui comptais au monde. Donc j'ai fait l'expérience, je l'écris dans le livre, d'exister pour la première fois.
Alors, il se passe aussi des choses dans votre famille, puisque rapidement, alors j'ai pas compris exactement à quel âge, mais la famille fuit. C'est après un épisode particulièrement dramatique, donc vous rentrez chez vous, vous avez votre sœur aînée ou votre frère, je crois, qui crie par la fenêtre « Papa a un fusil ». Bref, la situation est dramatique. Et donc vous fuyez avec votre famille. Vous aviez quel âge quand vous avez fui comme ça?
Je pense que j'avais 15 ans maximum. Je n'ai jamais fait une chronologie très, très, très précise, mais c'était les années de bac. Hein. C'était entre le bac de français et l'année du bac.
Donc, vous fuyez avec votre maman. Racontez-nous cette fuite, peut-être.
Voilà. Maman était incroyante. Et à ce moment-là, ma sœur aînée étant fiancée, et vivant un chemin de foi fort avec son fiancé, maman était interpellée. Donc, se posait des questions sur la foi. Donc, elle a voulu commencer à aller à la paroisse. Bien entendu, la folie de papa a tout de suite mis le feu rouge sur ces nouvelles rencontres qu'elle allait faire. Donc maman, quelquefois, m'a proposé, ou m'a demandé plutôt, de l'accompagner à l'une ou l'autre soirée pour que papa ne puisse pas l'accuser. Et c'est au retour d'une de ces soirées que notre frère, du haut du premier étage, nous a fait signe. Et donc, à un moment, la police est arrivée. Je ne me souviens de rien. Nous sommes, sauf de ce moment-là et de ce très, très grand froid, je dis, ça a été notre dernière soirée en famille. Et nous avons été chez des parents, m'a-t-on raconté, parce que là aussi, ça s'est effacé. Donc, vous imaginez la pression psychologique. Et ensuite, il y a eu deux étapes. Une première étape où nous nous sommes cachés, maman, mon frère, ma petite sœur et moi, nous avons été cachés par des religieuses qui tenaient un internat. Et je me souviens de ces boxes où nous étions les quatre l'un à côté de l'autre, donc pendant des mois. Alors je dis cachés parce qu'en fait, la folie de papa l'amenait à vouloir supprimer maman. Et ce n'était, bien entendu, ce n'avait été dit que dans le cercle familial. Et nous-mêmes, nous ne pouvions pas l'exprimer. Mais nous essayons de protéger maman. Et ensuite, deuxième étape, c'est une famille de paroissiens qui nous a donné un petit local au fond de leur jardin, là aussi pour nous sauver de l'emprise de papa. Et ça a duré des mois, des mois.
Et un peu plus pour votre mère, qui est restée là vivre là-bas quelques années.
Voilà.
Alors Roselyne Courreau, il y a une très belle chose à vous lire, c'est l'unité de la fratrie. Voilà, on sent que c'est dans le sud-ouest, hein, c'est la mêlée là.
Alors,
il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de force entre vous.
Alors beaucoup de force, mais de force non parlée. Alors j'ai bien parlé de ma sœur aînée qui a été un pilier. Et qui, bien entendu, à l'âge où mon frère et moi nous passions le bac, n'était plus dans la maison. Elle vivait des études supérieures, ses fiançailles, et ensuite elle va se marier, mais tout en accueillant maman le plus souvent possible. Une solidarité non dite, mais profonde. On ne se parlait pas. Mais par exemple, mon frère a tout fait pour essayer de sauver maman. C'était l'époque où on ne divorçait que quand l'un des deux était déclaré coupable. Donc, mon frère...
Il vous racontait qu'il avait une mobilette, il suivait votre père en filature pour essayer de trouver des preuves.
Voilà, et des preuves qu'il trouvait d'ailleurs. Voilà. Et chacun, nous faisions notre part. Ce que je voudrais souligner quand vous parlez d'unité, c'est que c'est un des points extraordinaires de notre histoire. C'est que maintenant, des années et des années après, nos deux parents sont décédés depuis, nous sommes une fratrie très unie. Toujours avec extrêmement peu de paroles, mais nous sommes sûrs les uns des autres, alors que nous sommes très, très différents. Par exemple, au niveau de la foi, deux ont la foi, deux autres ne l'ont pas.
Alors, on y reviendra à l'unité, hein, parce que c'est comme le fil d'or aussi qui traverse votre livre et qui est comme aussi comme le triomphe, hein, de cette enfance si difficile. Alors après vous partez, donc vous êtes une élève plutôt brillante, vous faites une hypocagne, une cagne, donc étudiante en lettres, vous préparez normale supérieure, vous ratez normale supérieure, bref, en tout cas la vie étudiantine commence. Il y a des beaux souvenirs, je ne retrouve plus le passage, mais il me semble qu'à un moment vous arrivez dans une pension de jeune fille ou équivalent, et puis il y a une femme qui chante dans le couloir ou chose à peu près semblable, et vous sentez là un vent de liberté, de bonheur que vous ne connaissiez pas jusque-là. Aidez-moi à recoller les morceaux de ce souvenir.
Alors, je ne l'ai pas présent, mais par contre...
Le bonheur de cette vie étudiantine, en tout cas.
Alors, bonheur de cette vie étudiante, Argentine. Oui et non. Je souligne que l'asphyxie dont vous parliez dans mon enfance...
Attendez, je retrouve le passage. Ce jour-là, en lavant les plats et couvert de ce lieu que je connais à peine, tandis que Josette nettoie l'étage en chantonnant, je ressens une joie immense que je n'ai jusqu'alors jamais expérimentée. Voilà.
Alors, je reconnais très bien le passage.
Josette.
Et il est très, très important. En fait, je ne le relis pas beaucoup à ma vie estudiantine, mais vous avez tout à fait raison. Ça se passe quand je suis à Toulouse et quand je suis interne en cagne et hypocagne à Saint-Cernin.
À vous lire, vous découvrez que la vie peut être autrement, en fait.
Alors, en fait, ce lieu-là, en particulier, il va être fondamental. C'est un lieu que le père Francis m'a indiqué quand je suis partie à Toulouse étudier, me disant « si tu as besoin de quoi que ce soit, va à cette adresse ». Ce qui pour moi est impressionnant des années après quand je relis, c'est pourquoi je suis allée dans ce lieu-là alors que je n'avais pas l'impression d'avoir besoin de quelque chose. Je me trouve à sonner dans ce lieu qui en fait est une communauté des Focolari. Et je suis frappée par l'harmonie de ce petit appartement. Et la deuxième fois où j'y vais, c'est le passage que vous racontez. Je suis accueillie par l'une des personnes de la communauté et en rendant service, en répondant oui à ce que me demande l'une d'elles, je fais pour la première fois l'expérience de la joie en donnant et en faisant la vaisselle.
Les Focolari, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout le monde ne connaît pas les Focolari, et puis ici dans le sud-ouest, au fur et à mesure, ils ne sont pas très très présents. Donc sa fondatrice s'appelait Chiara Lubich, voilà une femme qui a vécu pour l'unité, hein. Je ne sais pas quelle sera la suite de sa vie, si un jour elle sera reconnue bienheureuse ou autre, mais on dit qu'elle a vécu, qu'elle a souffert et qu'elle a aimé en faveur de l'unité. Est-ce que vous deviez présenter un peu les Focolari et nous dire pourquoi ça vous a autant plu dès le début?
Alors, c'est l'atmosphère, hein, de partage.
Alors, d'abord,
qui m'a impressionnée.
Les Focolari, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc
alors,
le mouvement d'église, né en Italie.
Mouvement reconnu par l'Église catholique, qui a commencé en Italie et qui maintenant est développé dans à peu près 180 pays et qui comprend des personnes d'autres confessions chrétiennes, aussi d'autres religions et même des personnes non-croyantes. Alors, quel est le fil conducteur, j'ai envie de dire, le charisme, comme si vous disiez en une parole de l'Évangile les franciscains. Le charisme franciscain, vous diriez heureux les pauvres. Si vous dites le mouvement des Focolari, vous dites la dernière prière de Jésus, son testament, quand il prie son Père et qu'il dit « Père, hein, que tous soient un ». C'est le grand rêve de la fondatrice, c'est-à-dire c'est le rêve de Jésus. Le particulier, c'est que c'est la prière de Jésus. Donc la prière de Jésus au Père, il faut y adhérer parce que nous marchons avec lui.
Qu'est-ce qui vous a autant plu dès le début au Focolari?
Plutôt que ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a rempli. Ce qui m'a rempli, c'est le partage de faits de vie. Une des bases de la vie des membres du mouvement, c'est à l'école d'une parole biblique chaque mois. Pas tellement de la méditer ou de la prier aussi, mais surtout de partager le fruit de la vie de ces paroles. Je me souviens que pendant un an, me retrouvant avec des jeunes du mouvement, je les entendais raconter « j'ai essayé de vivre telle parole dans la famille, j'ai essayé de vivre cette parole dans le métro ». Et les petits faits de vie que j'entendais alors que je restais sans parole me donnaient de l'oxygène. Je me disais « mais je peux aimer comme ça, je peux ». Et du coup, le moteur de mon cœur se mettait à vivre, et surtout le gouffre intérieur que je pensais sans fond commençait à s'oxygéner, à se remplir.
Alors à propos de gouffre, justement, il y a un sous-chapitre qui s'appelle « Chute dans le gouffre ». Et ça commence comme ça, tout disjoncte, le 16 décembre 1992. Je vous propose que vous nous racontiez à grands traits, j'allais dire ce passage à vide, mais c'est bien plus qu'un passage à vide. Vous dites un peu précédemment que c'était un tsunami souterrain qui se préparait. On sent que vous trouvez comme une forme d'équilibre et que comme effet boomerang, vous revient en fait... tout se passait si douloureux. Mais alors, vous l'avez vécu et traversé de manière extrêmement frappante, hein, et qui dit combien tout ce que l'on vit s'imprime, parfois au-delà de la conscience que l'on en a, puisque vous dites que vous vous souvenez plus de grand-chose. Donc, ce 16 décembre 1992 va commencer une traversée de 5 ans et 8 mois, où vous dites que vous avez vécu quelque part comme un zombie. Il y a un autre passage, vous dites que c'est en état de rêve éveillé. Racontez-nous rapidement ce qu'ont été ces 5 ans et 8 mois de rêve éveillé, comme vous dites.
Alors, vous me faites passer de 17 ans, l'épisode que je viens de narrer,
oui,
à 36 ans. Donc, je vis des années où... j'ai envie de dire, je fleuris, puisque vivre l'évangile, j'ai envie de dire, c'est comme un bouton de coquelicot qui s'ouvre et qui déploie ses pétales. Et je me donne à fond. Je pense que ça, c'est une de mes caractéristiques, ça, inscrite dans mon tempérament. Le peu ou le beaucoup que je peux vivre, j'essaie toujours de le vivre à fond. Donc, entre 17 et 36 ans, j'ai essayé de vivre à fond et de vivre à fond à la suite de Jésus et dans l'amour des frères, parce que une des grandes portes que m'a ouvert la spiritualité du mouvement, c'est aussi cette rencontre avec Jésus dans chaque frère, quel qu'il soit, y compris avec mon papa. Et qu'est-ce qui va se passer? Je prenais l'image du coquelicot, imaginez un coquelicot qui commence à fleurir, mais qui n'a pas de racines. N'ayant pas les racines vitales de l'enfance, de l'affection minimum, en fait, à 36 ans, tout va disjoncter. En 5 minutes, après une période de fatigue, où mes amis vont m'accompagner, essayer de me faire consulter des médecins, un jour, en 5 minutes, un soir, ce fameux 16 décembre, tout va, l'électricité va sauter.
Alors, il y a comme au cœur de cette... Vous êtes arrêtée, vous étiez enseignante. Vous êtes même, donc vous faites un séjour en clinique psychiatrique, vous voyez des médecins, après on vous demande, vous reprenez comme une forme de travail de documentaliste, et puis vous êtes sous médicaments. Bref, vous avez quand même une vie en fait, extrêmement ralentie, avec, on imagine aussi non seulement tout le combat intérieur hein, pour porter cette maladie, mais le regard des autres. Alors il y a un passage dans cette maladie sur lequel j'aimerais que vous arrêtiez, c'est il y a 9 mois où vous vous coupez comme du monde. Racontez-nous cet épisode au cœur de ce drame.
Oui, alors ces 5 ans et 8 mois, les 9 mois que vous évoquez sont les 9 derniers mois. Bien entendu, personne ne peut savoir, et moi encore moins, que ce sont les derniers mois de cette maladie, puisque les médecins, les spécialistes de 2 hôpitaux ont dit que
c'était irrémédiable.
Cette maladie est irrémédiable. Donc, on essaie de trouver comment je peux gérer avec très peu de moyens. Voilà. Et en fait, dans ce brouillard qui disjoncte constamment, hein, je pense que c'est tellement froid, c'est tellement terrible ce... cet autre monde que, par exemple, quand je prends le téléphone et qu'on me parle, je ne sais plus à la fin de la phrase quel est le début de la phrase qu'on m'a dite. Hein. Vous voyez l'état dans lequel je suis.
Alors, quelle relecture vous faites de ces 9 mois ?
Et en fait, pendant 9 mois, je ne vais plus rien faire de ce qu'on me dit pour essayer de me soigner. Je vais vivre totalement sur moi-même. Et c'est quand je vais sortir de ce rêve éveillé au bout de ces 9 mois et que je devrais consulter un psychiatre pour savoir ce qu'il en est au niveau de mon travail, en racontant et en mettant toutes les choses bout à bout, je vais expliquer sans le vouloir que je viens enfin de vivre ce calme, ce sur moi-même que je n'ai même pas vécu quand j'étais dans le ventre de ma mère, maman ayant essayé vainement de divorcer lorsqu'elle m'attendait, ce qui pour elle avait été un traumatisme et je pense pour le bébé qu'elle portait aussi.
Et le 22 août 1998, c'est le jour de la fête de Sainte-Rose de Lima. Vous reprenez vie, alors vous reprenez vie presque sans vous en rendre compte. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes revenu à la réalité. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver Roselyne Courreau pour continuer à parcourir cet ouvrage. On va parler encore plus de votre vie de foi qui traverse tout cet ouvrage, tout votre livre. Cette vie de foi, on sent que c'est une alliance hein, dans votre livre. Hein. Dieu n'a pas fait le travail à votre place, loin s'en faut, ce qu'on vient de l'évoquer le dit. Voilà, Dieu ne se paye pas de mots, il en demande beaucoup à l'homme, mais il n'était pas absent non plus. Survivante, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Nouvelle Cité.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Roselyne Courreau, Histoire d'une enfance sauvée, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes donc avec elle, l'auteur d'un ouvrage intitulé Survivante, paru aux éditions Nouvelle Cité. Roselyne Courreau, on va parler dans cette dernière partie davantage de votre foi, de cette alliance. Et alors, il y a une chose qui est frappante dans votre livre, c'est que très petite, On sent que vous avez une relation vivante avec Dieu et que vous n'avez jamais été en colère contre lui.
C'est vrai.
En tout cas, vous n'en parlez pas.
Non, je n'ai... Dieu, pour moi, c'est celui qui crée la beauté. C'est celui qui crée les frères. Donc, la chance des relations, c'est l'ami. L'ami avec un grand A.
Étant enfant, comment vous avez découvert Dieu, en fait ? C'était tout de suite, vous avez eu...
Alors, j'ai eu la chance...
Une bonne connaissance, on va dire, de Jésus et une relation presque personnelle avec lui ?
Alors, j'ai eu la chance d'être baptisée, j'ai eu la chance de vivre les sacrements. Celui qui m'a émerveillée, c'est ce Jésus qui relève la femme adultère. De toute petite, alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire, la femme adultère, ce Jésus qui est d'une douceur incroyable, qui relève sans condamner, qui protège aussi. C'est celui-là que j'ai rencontré, j'ai envie de dire, sereinement. Voilà. Un des souvenirs qui dit beaucoup de choses, c'est le fait que je pouvais aller à la messe alors que j'étais petite, hein, que mes parents n'y allaient pas, l'église n'était pas loin. Et je rentrais en dansant. Je montais la côte en dansant. Et bien entendu, enfin bien entendu non, mais... Dès que la maison apparaissait, tout s'arrêtait. Mais pour vous dire, une présence intérieure plus délicate et plus présente que moi-même.
Rosine Kourou, il y a autre chose qui est frappant dans votre livre, je l'ai déjà dit, c'est l'unité. L'unité, c'était le grand combat et la grande intuition donc, de Chiara Lubich, fondatrice donc, des Focolari. En réponse donc à ce cri de Jésus à la fin de sa vie, que tous soient un. Ce combat pour l'unité, donc vous l'avez vécu à vous lire. Enfin, d'abord, il y a un combat pour une unification intérieure, hein, c'est un peu facile de dire ça. Mais aussi, vous l'avez vécu à plein en vous engageant à fond dans cette spiritualité. Et puis après, dans le diocèse d'Albi, vous avez eu des responsabilités et vous faisiez l'unité à votre manière, en travaillant entre autres pour la communication de ce diocèse pendant des années. Parlez-nous de ce combat pour l'unité.
C'est la respiration essentielle, c'est la respiration lumineuse.
Il y a un sous-chapitre pardon, qui est intitulé « À 200% pour un monde uni ».
Exact. C'est-à-dire la découverte... qu'on est tous frères. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas, mais quand on le vit, quand on essaie de le créer, on sent qu'on n'est fait que pour ça. Et cette ampleur dans laquelle m'a entraîné le charisme du mouvement des Focolari, qui n'est que l'ampleur du message de Jésus et de ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire nous faire découvrir notre Père, un Dieu qui est Père de tous. Donc, cet amour pour tous, quand on perçoit l'amour de Dieu pour soi, on n'a qu'une envie, c'est que l'autre, qui qu'il soit, découvre qu'il est aimé de façon divine.
Ce combat pour l'unité, donc vous l'avez vécu donc au sein des Focolari. Si vous deviez en dire un petit peu plus, ça veut dire quoi en fait vivre ce combat de l'unité au sein des Focolari ? Ça prend quelle forme ? On entend que c'est au cœur de la spiritualité des Focolari, mais au quotidien ça donne quoi ?
Au quotidien, c'est voir un frère dans chacun. Et c'est le construire concrètement. Le construire dans le partage de ce qu'on vit, le construire dans tous les aspects, dans l'aspect matériel aussi, le construire dans, comme nous disait Jean-Paul II, votre charisme, c'est essayer d'être apôtre du dialogue. Donc être et essayer d'être, de vivre dans les petites comme dans les grandes choses pour créer ce dialogue qui est le désir de Dieu.
Il y a une belle phrase d'ailleurs de Karl Lubick que vous citez, mieux vaut le moins parfait vécu en unité avec les frères que le plus parfait vécu en désunité. Mieux vaut le moins parfait vécu en unité avec les frères que le plus parfait vécu en désunité. Roselyne Courreau, je vois que l'émission touche à sa fin. Alors, on va pas dévoiler la fin de l'histoire. C'est votre demande et vous avez raison. Mais quand vous êtes parti de chez vos parents, alors que le drame ne s'était pas dénoué, loin s'en faut, vous avez lancé une prière à Dieu et Dieu vous a exaucé.
Oui, je suis partie dans des circonstances dramatiques. Donc j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. Je suis partie pour suivre Dieu, ceux qui liront le livre comprendront. Et bien entendu, à cette époque-là, la majorité venait juste d'être votée à 18 ans. Pour maman, c'était terrible. Je partais dans une secte. Papa voulait m'envoyer les gendarmes, etc. La certitude que j'avais, c'était, même si j'avais un tout petit peu reconstruit à ce moment-là avec papa, et si je soutenais maman, c'était que si Dieu m'appelait, il m'aimait et il ne pouvait pas aimer moins mes parents. Donc, même si, a priori, ça pouvait accentuer le drame, je croyais que l'amour de Dieu pour moi et pour mes parents était plus fort. La seule chose que j'ai dite à Dieu en montant dans le train avec maman qui pleurait toutes les larmes de son corps en bas du train pour essayer de que je ne parte pas, c'était « Jésus, je pars pour toi, occupe-toi de mes parents ». C'est la seule prière que je lui ai faite ce jour-là, qui pour moi est le jour du oui à Jésus. Alors, et sans, il l'a exaucé.
Alors, sans tout dévoiler, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la fin? Peut-être, vous n'allez pas nous raconter la fin, mais vous allez nous dire, dans la foi, qu'est-ce que les personnes qui ont traversé des choses difficiles, semblables à vous, qui par hasard nous écouteraient ce matin, peuvent espérer?
Ce qu'elles peuvent espérer, surtout si elles ont la chance de ce chemin avec Jésus, c'est que... pour moi, la certitude, c'est que Jésus n'abandonne pas. Jésus est tout proche avec une délicatesse infinie pour soi-même et pour les autres. Et que il désire le meilleur pour chacun. Je crois qu'il faut faire confiance à Jésus. Il faut dire et arrêter tout ce qui est noir, tout ce qui est injuste, tout ce qui est innommable, il faut tout faire pour arrêter ce genre de choses. Par contre, le jugement sur les personnes, ça ne sert à rien de taper sur les personnes. Il faut continuer à croire, se faire aider, ne pas aller dans la gueule du loup, bien entendu, mais continuer avec Jésus, croire, mon chemin le dit, bien entendu, on aura toujours, et Jeannet, mes frères et sœurs en ont des séquelles, des handicaps, mais dans toute vie, il y en a. Croyons que l'amour est plus fort, comme le dit saint Paul.
Survivante, c'est donc le titre de votre livre, très beau livre à lire, donc paru aux éditions Nouvelle Cité, les éditions Nouvelle Cité qui sont donc les éditions des Focolari. Ceci explique cela. Merci beaucoup Roselyne Courreau d'être venue ce matin au micro de Vivante Église. Belle manière de lancer cette semaine. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.